Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio. Sacha Guitry de la maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité dramatique et néanmoins théâtrale avec à l'hôtel du libre-échange de la critique Charlotte Lipinska de Marie-Claire, Fabienne Pascot de Télérama, Jacques Nerson de l'Obs, Vincent Josse de France Inter et de l'indispensable récréation tous les après-midi. On parle ce soir, vous l'avez compris, de l'hôtel du libre-échange, de Feydeau à la Comédie Française, mais également des pièces de Pascal Rambert, Thomas Bernhardt, Mourad Merzouki, Pierre Note, Ramu Stravinsky et un certain Victor Hugo. Dans le courrier de la semaine, eh bien, Bernadette Chabert ne décolère pas. J'ai vu le testament de Marie à l'Odéon, mis en scène par Deborah Warner, et j'en suis sorti bouleversé. Comment ne pas comprendre que ce qui nous est montré, c'est la souffrance d'une mère dont l'enfant a été assassiné, alors qu'on veut lui faire dire que tout cela est très bien. Cette femme se révolte contre les représentations lisses dont l'imagerie populaire l'a affublée. Le pire, c'est Fabienne Pascot qui ne supporte pas que l'on détruise l'image de Marie servante du Seigneur diantre. Quant à son histoire de terroriste, je me demande où elle est allée chercher cela.
Dans le texte, Marie parle sans arrêt de dangereux pyromanes qui entourent son fils, une bande d'assassines et bizarres. C'est dans le texte.
Non, le mot terroriste n'y est pas.
Non, mais il est suggéré. C'était une volonté d'actualiser le texte.
Sylvie a vu son premier Arthur Oui, c'était à la Comédie Française. J'ai adoré le spectacle, particulièrement ébloui par Laurent Stocker. Et Jérémy Lopez, terrifiant, qui est un immense acteur, triomphe absolu. Beaucoup de jeunes dans la salle. Moi, j'aime tout ce que fait la Comédie Française. Même la règle du jeu, c'est dire. Oui, en effet, c'est dire. Monsieur Houdard nous écrit à propos du même Arthur Oui. Jacques Nerson a déclaré. Ah, j'ai eu plein de courriers pour ça. Que Hitler avait été élu par l'immense majorité du peuple allemand, c'est un mensonge, Jacques. Lors des dernières élections à peu près libres en Allemagne, en 1933, le parti nazi avait obtenu 43,99% des voix, c'est beaucoup, mais ça ne fait pas l'immense majorité dont parlait Nerson.
Ce monsieur 50, a raison, c'était
56% n'ont pas voté nazi, même rectificatif de Pierre Surmont. Hitler n'a jamais été élu à une écrasante majorité, mais nommé chancelier par Hindenburg. Révisez, Jacques Nerson, votre histoire. Patrick Legal apporte une autre précision sur le même spectacle. Vous sembliez surpris, choqué par les masques de clowns. Le Berliner Ensemble présenta la pièce en 60 avec cette approche. Et plus tard, Savary, Achaillot et Brecht avaient précisé qu'il convient d'utiliser des masques.
Savary et Chaillot, il n'y avait pas de masque. Hein. Je me souviens très bien de Bedos, de Roland Blanche, etc. Ils ne portaient pas de masque.
Gardez votre salive, Jacques, parce que la lettre qui suit est pour vous. C'est une lettre des traducteurs aux Français d'Arthur Oui, Hélène Moller et René Zande. Nous souhaitons vous apporter deux précisions qui vous amèneront peut-être à nuancer les termes de stupidité et de sottise employés à propos de notre traduction de l'épilogue. 1. Il n'est pas question de bêtimonde dans le texte de Brecht. 2. Il n'est pas davantage question de vermine dans notre traduction de l'épilogue. C'est un choix dramaturgique. Vous auriez pu vous en rendre compte, Jacques, en consultant notre version française la pièce parue à l'Arche.
Alors, quand on voit un spectacle et que ce spectacle est signé du nom des traducteurs, il faudrait aller vérifier chaque fois pour voir si le metteur en scène n'a pas changé la traduction.
Oui. Bon. Et pour finir, un joli message collectif à propos d'une pièce dont on va parler dans quelques instants. Chers masqués et plumés, nous sommes 9 petits Toulousains scolarisés dans un ITEP. Les ITEP sont des établissements médico-sociaux qui soignent des jeunes comme nous, souffrant de troubles de comportement. Nous avons assisté au spectacle Carmel Elio, conseillé dans votre dernière émission, l'histoire du soldat au théâtre de Poche. Pendant ce spectacle génial, nos troubles furent oubliés et notre comportement exemplaire. Le metteur en scène et les acteurs nous ont même offert la possibilité de monter sur scène et de discuter avec eux après leur prestation. Et merci pour vos émissions. Il est plaisant de constater que votre amour pour la culture, qui nous apaise, vous donne de temps à autre quelques troubles du comportement. J'ai trouvé ça assez joli. Allez, justement, quelques mots de ce spectacle Histoire du soldat, qui est un bref mimodrame composé par Stravinsky, qui était alors réfugié en Suisse, c'était en 1917, sur un texte de Charles-Ferdinand Ramu pour trois récitants, le lecteur, le soldat, le diable et sept instrumentistes. L'histoire, c'est celle d'un soldat pauvre qui vend son âme et son violon au diable contre un livre qui permet de prédire l'avenir et croit-il de devenir fabuleusement riche. C'est le début de ce que Ramu et Stravinsky appelaient une espèce de petit théâtre ambulant et qui se termine, on peut le dire, sans spoiler la pièce, par le triomphe du démon. C'est mis en scène au Poche Montparnasse par Stéphane Druet, direction musicale Jean-Luc Tingo avec Claude Aufort, Licinio da Silva, Fabien Wolfrom, Aurélie Loussouarne et chemise blanche et pantalon rouge, les musiciens de l'orchestre. Atelier Ostinato, ce qui fait beaucoup de monde pour un tout petit plateau et une œuvre un peu oubliée qui est ici, il faut dire, restaurée avec beaucoup de soin, non Charlotte ?
Oui, alors certainement, moi j'ai eu un souci vraiment personnel, c'est que je n'aime pas du tout cette musique. C'est-à-dire que ma tête admet vraiment volontiers qu'il s'agit d'une œuvre majeure, remplie d'une grande modernité, mais alors mes oreilles, pas du tout. Quoi.
Moi, c'est un problème perso avec Stravinsky ?
Non, mais oui, cette musique ne me procure aucune émotion, ça m'agresse, et du coup j'étais en résistance pendant tout le spectacle, alors du coup je me suis un peu attachée
Vous
à l'argument.
Vous êtes plus Daft Punk que Stravinsky, non ?
Entre autres, non, j'aime énormément de classique, mais là il y a quelque chose de dissonant, ça n'est pas une musique qui est très mélodieuse et ça ne m'a pas du tout emportée. L'argument, vous l'avez résumé, il est quand même assez succinct, du coup je m'accrochais aux acteurs et c'est vrai que autant Claude Aufort dans le narrateur me prenait immédiatement, j'étais embarquée avec lui, autant le soir où j'y étais, le jeune comédien qui joue Joseph le soldat, lui n'était pas vraiment là, quoi. Il était un peu absent, l'air ailleurs. Du coup, je ne rentrais pas du tout dans cette histoire et j'étais en lutte avec cette musique. Après, je reconnais la gageure quand même de Stéphane Druet qui arrive
gageure
à faire...
Même,
gageure, pardon.
Gageure. Allons-y pour gageure,
qui arrive à faire tenir 10 artistes sur ce petit plateau sans qu'ils se marchent dessus. Ça marche assez bien, c'est une mise en scène très simple, très sobre, mais c'est vraiment pour moi recommandable uniquement aux gens qui aiment Stravinsky. Pour les autres, c'est plus difficile.
Mais il y en a beaucoup qui aiment Stravinsky, heureusement.
Eh bien, heureusement, alors, je suis très heureuse pour eux, Jacques.
L'homme de la récréation, Stravinsky.
Tu veux que je te dise que j'ai adoré, c'est ça? Mais non, je me suis ennuyé. C'est d'un ennui, cette œuvre. Elle est totalement datée.
Merci,
me fais peine, Charlotte, parce que tu t'excuses un peu de ne pas avoir aimé. Tu as le droit de réagir à un spectacle et à la manière dont on reçoit une œuvre aujourd'hui. Si elle est peu montée, c'est que c'est plus possible. C'est totalement daté, quasiment ringard. Et vouloir le monter
ringard,
aujourd'hui, ça doit être une commande.
Mais c'est vous
mais c'est
qui
pas
êtes
possible
ringard,
que Stéphane Druet ait eu envie de monter ça. On a dû lui demander parce que c'est pas d'aujourd'hui, parce que c'est une histoire.
C'est une histoire tirée d'un conte.
On ne peut faire que quelque chose quand on décide d'en faire du théâtre. On ne peut faire que quelque chose d'illustratif et on est totalement dans l'illustration. On n'est pas dans quelque chose de léger. Il faudrait que ce soit, si c'était un opéra, une version de concert qu'on présente aujourd'hui, mais pas l'opéra en soi. Donc effectivement, ça souffre d'autant plus qu'il y a un gros problème de distribution, que ce jeune soldat, on voit un peu le vide à travers lui, en tout cas au moment où il joue ça. Très beau garçon, mais ça suffit pas pour faire exister quelque chose. Et puis Claude Aufort, il est tétanisé à l'idée de pas être en rythme. Et donc on est mal à l'aise pour lui parce que c'est très rythmé ce texte.
Excuse-moi, mais tu parles pour lui à sa place.
J'ai été gêné en tant que spectateur.
Pas parce qu'il est en rythme, non, il
respecte
le rythme.
J'étais en plus, j'ai emmené mon stagiaire de 23 ans, mais il s'est ennuyé comme si on avait passé 4 heures dans un théâtre.
C'est son problème, mais enfin,
Non, mais on s'interroge toujours sur à qui parle le théâtre et essayons d'avoir un public plus jeune. C'est pas avec ça qu'on va changer.
En l'occurrence, c'est vous qui êtes les vieux.
Ça fera sans doute très plaisir.
C'est vous qui êtes les vieux parce que c'est vous qui n'aimez pas la musique de Stravinsky.
On va dire que je vous donne la parole.
Non mais Jérôme, c'est hallucinant, c'est les deux plus jeunes d'entre nous.
Oui, alors.
Et ce sont, ils ont les réactions des gens 1910 ou
quand
on a commencé à découvrir. La musique de Stravinsky.
Ils ont le droit de pas aimer, je comprends pas.
Mais c'est surtout quand j'entends parler de dissonance, c'est dissonance, etc. Parler de
musique
de Stravinsky comme ça.
Mais c'est pas mélodieux, Jacques, quand même reconnaître cette musique.
Mais c'est pas une musique qui cherche à être mélodieuse. Ben oui, effectivement. Enfin, c'est hallucinant même qu'on puisse s'étonner que Stravinsky produise des dissonances. Oui, on peut aussi on peut dire Kurt Weill, bah tiens, c'est marrant, c'est un peu grinçant par moment. Bah oui, évidemment, c'est sa particularité. Mais c'est en même temps génial, entraînant, très spirituel, très drôle. C'est
drôle.
Ah si, c'est drôle.
Mais ça raconte une époque. Ça raconte les ruptures.
Oui, mais c'est intéressant
dans le cadre de l'histoire de l'art.
Mais quand vous parlez, quand vous dites que c'est pas léger, je pense à ce que fait la danseuse. C'est absolument ravissant. Et c'est au contraire très léger. C'est un spectacle léger.
La danseuse qui est la princesse, elle est contrainte par un espace réduit.
Justement, elle s'en sort très bien.
C'était un spectacle forain qui devait circuler en Suisse à l'époque.
Il faut le faire sur des tréteaux, mais pas dans une salle de
théâtre. Si tu es devant des tréteaux, toi, ça sera toujours la même chose. Tu me diras, ben non, la musique de Stravinsky, etc. Enfin,
bon, d'abord, il ne parle pas comme ça. Et ensuite,
pas comme ça, tu es très désagréable.
C'est pas être vieux que
de trouver un spectacle daté et un projet immontable.
Ce qu'il y avait de plus retardataire à l'époque, on l'a encore aujourd'hui, apparemment.
Non, mais c'est quand même
troublant de se battre pour la musique de Stravinsky.
Si vous permettez que juste la scène est un peu petite pour le projet.
Mais je trouve que ça marche très bien. Je l'aurais dit aussi a priori, et en même temps, effectivement, la mise en scène de Drouet est tellement intelligente, tellement maligne qu'il s'en sort. C'est assez incroyable, mais il s'en sort. Claude Aufort est formidable. Fabien Wolfram, vous faites la petite bouche, mais il est vraiment formidable, le soldat. Et le diable aussi. J'ai passé un moment vraiment parfait. C'est une gourmandise, une petite perfection.
Moi, j'ai passé un moment intéressant parce que j'avais jamais vu la version théâtrale. J'avais toujours vu la version orchestrale. Avec des grands Depardieu l'a interprété, enfin même Samy Frey, on l'a beaucoup vu comme ça. Et j'ai redécouvert l'œuvre, et l'œuvre, elle m'a intéressée justement par ses dissonances, par tout ce que ça raconte du climat de 1918 où un monde s'effondre. La musique, elle est formidable parce qu'elle mélange le jazz, elle mélange la musique populaire, elle mélange toute la modernité qui perce.
Et l'écriture de Ramuse, mais qu'est-ce qu'elle est belle,
exactement.
Ramuse.
Et cette écriture de Ramuse, poétique, tout en étant simple, tout en étant paysanne, quand on pense que ce spectacle dont la vocation était d'être foraine, justement, a été arrêté à cause de la grippe espagnole qui sévissait partout en Europe et qui a fait plus de morts encore que la guerre de 14, c'est un témoignage bouleversant d'un moment. Pour moi, c'est pas daté, c'est un moment de notre histoire.
Mais tu es touché par l'histoire, mais pas par le spectacle, Fabien.
La magnificence du style, enfin, c'est incroyable que vous ne l'ayez pas entendu.
Je suis touchée parce que ça raconte de l'époque et de ce que ça nous dit de ce monde-là.
L'histoire du soldat, c'est signé Ramuse Stravinsky, c'est au Poche Montparnasse, et selon que vous êtes avec le couple Charlotte-Vincent ou avec le couple
choisissez votre
Fabienne camp, Jacques,
les vieux jeunes et les jeunes vieux.
Où allez. Moi, j'aurais pas aimé. Hein.
Nous ne ferons pas de commentaires.
Mais ils font la tête.
L'hôtel du libre-échange, une pièce de Feydeau écrite avec Maurice Desvalières qui a été créée aux Nouveautés, Jacques y était, je crois, en 1894, et qui est montée aujourd'hui à la Comédie-Française où un entrepreneur pinglet, marié à une femme, comment dire, revêche, s'éprend de l'épouse de son associé, l'architecte Paillardin, laquelle accepte un rendez-vous secret avec Pinglet à l'hôtel bien nommé du libre-échange, recommandé aux gens mariés, ensemble ou séparément. J'aime beaucoup la formule. Où se trouve aussi, mais à leur insu, Monsieur Paillardin, venu vérifier que les chambres ne sont pas hantées. Alors, j'ai pas compté les quiproquos. Il y en a un nombre incalculable. J'ai presque envie de dire industriel. C'est très joliment scénographié par Christian Lacroix. Quant à la mise en scène, elle est signée Isabelle Nanty, la comédienne des Visiteurs et des Tuches, qui fait ses débuts salle Richelieu en réussissant, à mon avis, à mettre du sentiment dans la mécanique de Feydeau. C'est avec Michel Villermoz et Anne Kessler pour les Pinglets, Jérôme Pouli et Florence Viala pour les Paillardins, mais aussi Bruno Raffaelli, qui devient un commissaire bedonnant très impressionnant. Hein.
Magnifique, mais c'est une gravure de Félix Vallotton.
Oui, j'ai pas fini. et dans le rôle de...
Le meilleur pour la fin.
Et dans le rôle de Mathieu, le veuf bègue, qui débarque à Paris avec ses quatre filles, le génial, je pèse mes mots, le génial Christian Eck, plus proche ici d'ailleurs de la pantomime que du vaudeville. Je précise que cet hôtel du libre-échange se donne aux Français jusqu'au 25 juillet, Donc vous avez le temps d'y aller. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé, je crois que je suis le seul. Jacques ?
J'ai moins aimé que vous, ça c'est sûr. J'ai autant aimé que vous, Christian Reck, qui est effectivement, vous avez dit génial, vous avez raison, c'est un comédien, c'est plus qu'un comédien, c'est un
plus... Dans la lignée de Robert Hirsch.
Qui était déjà un bousin du même Phédo.
Éblouissant. Oui, mais il avait... D'une certaine manière, presque moins de mérite, parce que Bouzin a des situations plus drôles à défendre. Alors que là, le rôle, au fond, n'est pas très intéressant, mais lui est tellement extraordinaire que dès qu'il apparaît en scène, la salle se tord de rire. Malheureusement, quand il n'est pas là, moi, je m'ennuie un peu. Je m'ennuie d'abord par la faute de la pièce, que je ne trouve pas du tout la meilleure pièce de Phédo. L'histoire des chambres d'hôtel où tout le monde se retrouve, il va l'utiliser dans d'autres pièces, comme le dindon ou la puce à l'oreille, et il le fera bien mieux. Alors que là, vous avez dit vous-même, il y a trop de quiproquos. Oui. Enfin, il y en a beaucoup, oui. Il y en a trop. Il y a un moment où trop, ça devient écœurant.
Nanti d'avoir réussi à faire glisser tout ça sans
qu'on ait
le sentiment
que ça soit lourd. Là non plus, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce qu'Isabelle Nanti, dont c'est la dernière mise en scène, et elle annonce qu'après ça, elle ne fera plus jamais de mise en scène, Isabelle Nanti, elle rajoute des choses tout à fait inutiles qui cassent le rythme, notamment un cabaret avec des chansons. C'est pas petit, ça ralentit le rythme, mais c'est totalement inutile. Je ne vois pas ce que viennent. C'est faire là-dedans des chansons de Villemettes.
C'est au moins utile pour passer de l'acte 1 à l'acte 2. Il y a un changement
mais
de décor.
Jusqu'à
énorme,
présent, on est arrivé à faire des changements de décor sans ralentir. Et sans. Je trouve que Laurent Lafitte, que j'adore, il en fait lui aussi trop. Il grimace énormément. Il n'est pas naturel. Il ne chante pas bien, bizarrement. Alors, est-ce que le micro n'était pas bien fait ? J'en sais rien. Mais ce n'était pas très bon non plus. Ce n'était pas très agréable à entendre. Non, ce n'est pas un spectacle. Extraordinaire.
C'est un argument que j'utilise très rarement, mais le soir où j'y étais, les gens étaient fous de joie, riaient beaucoup.
Pour Christian Reck.
Et
Christian Reck, effectivement, mérite
et puis,
le
vous
détour.
Dire,
ça, c'est sûr.
On s'ennuie tellement parfois aux Français que là, je trouve qu'on a un moment.
Moi, c'est un spectacle, je vois que vous me tendez le doigt, donc je me permets de parler. Moi, c'est un spectacle que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. L'Hôtel du Libre-Échange, on le voit assez rarement, c'est la première fois que ça rentre aux Français, et alors évidemment, on ne pourra pas résumer la pièce. Comme dit toujours Phédo, ces comédies sont des tragédies à l'envers. Tout devrait bien se passer. Et puis dans cet hôtel, finalement, se rencontrent tous ceux qui ne devraient pas se rencontrer. Mais moi, ce que j'ai bien aimé dans la mise en scène de Nanti, c'est sa douceur, c'est sa tendresse. Les personnages, certes, chez Phédo, c'est toujours des êtres mesquins, veux, lâches. Enfin, il y a quelques scènes, notamment la scène où débarque Christian Heck chez ce couple bourgeois qui ne veut absolument pas le recevoir avec ses quatre filles et qui lui dit crûment non, on ne veut pas de toi. La scène où Michel Villermoz, derrière le dos de sa femme, dit sans arrêt qu'elle est moche, qu'il ne peut plus la supporter. Enfin, on sent que tous ces personnages sont au bord de l'explosion parce qu'ils n'en peuvent plus de leur vie et finalement ils n'explosent pas. Et c'est cette tension que je trouve formidable, une tension qui est remarquablement incarnée par la langue même de Phédo. Enfin, le personnage de Christian Heck, c'est complètement fou. Il bégaye quand il pleut et quand il fait beau, il ne bégaye pas. Donc,
ce qui va jouer un rôle déterminant dans l'épilogue.
Exactement. Donc, il se sert de la langue pour figurer tous les. C'est éminemment théâtral et cette pièce, elle est formidable pour ça. Et puis tous ces personnages empêchés qui ont encore des désirs à la fin.
Absolument, ils ont un besoin d'amour que j'ai trouvé très touchant. Moi.
Très touchant et c'est rare qu'un metteur en scène.
Je ne connais plus Jacques Nerson.
C'est rare qu'un metteur en scène montre ça parce que d'habitude la mode quand on monte Phédo, c'est de montrer l'univers cruel, l'arrivée de l'industrialisation, la bourgeoisie capitaliste ou la petite bourgeoisie médiocre. Et bien là, elle montre des êtres qui ont encore une innocence et qui croient encore en quelque chose.
Absolument.
Et ça, c'est
ce qu'elle raconte dans le programme, mais ce n'est pas ce qu'on
pas
voit.
Pas du tout. Il y a une mélancolie presque tchécovienne.
Et ça ne vient de Mme Tuche.
Ça ne vient dans le programme, mais c'est vrai.
Tchécovienne.
Presque.
Laissons le pauvre Tchékov à la
bonne. Mais c'est un plaisir inouï, ce spectacle, quand même.
Inouï, un plaisir.
Mais oui. Alors, on ne l'a pas dit, ça dure 2h20, ce qui peut faire un peu peur à l'arrivée. Je n'ai rien vu passer. Ça m'a semblé trois fois plus rapide que...
sans entracte.
C'est sans entracte.
2h20 sans entracte.
Moi, ce que j'aime beaucoup, je vous rejoins, c'est aussi
sur ces personnages. La musique est plus facile que celle de Stravinsky, c'est vrai.
Mais
ce sont des personnages encore en quête d'amour. Donc, effectivement, ils n'y ont pas renoncé. C'est ça que je trouve très beau. Et alors, évidemment, Christian Eck, je m'ajoute à vos louanges parce que c'est un génie, quoi. Il y a peu d'acteurs qui ont ce génie burlesque du corps. Vous rappeliez Jérôme Bouzin, où il mettait 20 minutes en scène pour s'asseoir sur une chaise. Il faisait plier toute la salle. Et bien là, il y a un numéro où il sert le thé. Et moi, je voudrais que Christian Eck vienne me servir le petit déjeuner tous les matins. Je serais la femme la plus heureuse du monde.
Mais vous boiriez pas beaucoup de thé.
Il est à tordant. Et Anne Kessler qui avance comme une poupée désarticulée avec une tête qui dodeline, qui a l'air complètement démembrée de son corps, elle est irrésistiblement drôle. Et il y a une idée de mise en scène que je trouve très belle, moi, qui est dans le deuxième acte, qui se trouve donc être cet hôtel du libre-échange avec deux chambres en face à face. Les acteurs jouent en même temps, mais ne se voient pas. Évidemment, c'est un peu un cliché, une tarte à la crème, de se dire que c'est une horlogerie, une mécanique, Fedo doit être joué à la précision. Mais là, c'est d'une précision incroyable sur les ouvertures et les fermetures des portes, avec un escalier en colimaçon au milieu. Et d'habitude, on ne voit jamais les gens qui arrivent, qui ne sont pas censés arriver. Et là, on les voit arriver. Nous, le public, on voit les personnages descendre ou monter.
C'est vrai, ça n'apporte rien de drôle.
Mais ça apporte beaucoup de choses, Jacques. C'est que ça apporte qu'en tant que spectateur, on se dit, oulala, pourvu qu'ils n'entrent pas dans la chambre.
Mais vous me ressortez là aussi les arguments d'Isabelle Nanty elle-même dans le dossier de presse. Mais c'est pas vrai.
Mais non, ça apporte du suspense. Comme des gamins un peu excités à savoir vers quel côté de la chambre il va aller.
On n'est pas du tout des gamins excités.
Et enfin voilà, moi, ça a été un plaisir inouï. On parle beaucoup de Christian Eck, de Anne Kessler, mais toute la troupe est absolument formidable, avec en plus quand même l'œil qui se régale des costumes et des décors de Christian Lacroix.
Très très beau décor.
Avec des drôleries
décors.
Dans les postiches capillaires qui sont vraiment très très rigolos. Moi je trouve que c'est un plaisir immense.
Vincent,
j'étais avec mon stagiaire.
Encore ? Mais qu'est-ce qui se passe avec ton stagiaire ?
Mais je le forme, je l'éduque.
Je t'en prie. Je t'en prie, ne profite pas de l'antenne.
Ça n'est pas un enseignement socratique. Il s'est beaucoup ennuyé alors qu'il connaît très peu Fedo et il a pari. Et je l'ai un peu suivi dans sa façon de réagir. Hélas.
Attends, si tu permets, je pense qu'il en a marre de te suivre dans tous les théâtres. Oui, ton stagiaire.
Tu as raison, depuis il ne m'a plus jamais suivi. C'est vrai, tu as raison. Il ne vient plus maintenant. Et je pense que le problème d'Isabelle Nanty, c'est qu'il y a eu une immense mise en scène avant sa mise en scène. C'est celle de Françon, il y a quelques années à la Colline.
Qui était sinistre.
Qui était remarquablement drôle. Parce qu'effectivement, il allait vers la dépression. Les personnages étaient dépressifs. Et donc, il tirait vers une noirceur. Je ne pense pas que ce soit facile, parce qu'on riait mille fois plus avec ce point de vue qui se déroulait en plus dans les années 20 que dans celui-ci qui est d'une sagesse. Alors, on a les costumes de l'époque de Fedo, les décors de l'époque de Fedo. On rajoute des petites chansons.
La musique n'est pas de l'époque de Fedo.
On rajoute des scènes chantées.
À cause de cette sagesse.
Mais on s'ennuie, on ne doit pas s'ennuyer à Fedo. On doit exploser de rire toutes les 3 minutes maximum. En tout cas, c'était mon cas. Et je trouve qu'il n'y a pas de point de vue du tout sur Fedo.
Il n'y en a pas un qui se soit ennuyé.
Écoute, je vais te prêter mon stagiaire et tu verras comment il réagit. S'il accepte que je le prête aussi facilement. Le pauvre, je pense qu'il va m'envoyer une lettre ou ses parents.
De maltraitance. Mais,
je me suis dit qu'elle prenait un peu des choses à la mise en scène de Deschamps quand il a monté Fedo. Je trouve que c'est un peu du sous-Deschamps qui lui-même empruntait
très
beaucoup
en dessous, très
à la mise
en
scène de Charon.
Parce qu'il y a ce petit solo de Christian Eck, évidemment.
Oui, mais Christian Eck, il a déjà fait ça 1000 fois.
On y pense. On ne s'en lasse pas.
Vous avez l'air de le découvrir et on sait très bien qu'il est un génie.
On l'a fait il y a longtemps.
Il ne réussit pas à inventer autre chose dans ce rôle-là. Et en plus, ils sont chacun à jouer un numéro et leur numéro et ça ne joue pas ensemble parce qu'il n'y a pas de direction d'acteur.
Vincent,
chacun apporte ce qu'il sait, ce qu'il a déjà fait et son savoir-faire. Lafitte qui a appris à chanter à Londres, eh bien, il chante. Son domestique noir, je trouve ça aussi très moyen comme point de vue et comme parti pris.
Ça m'a gêné.
Bakary Sangaré dans le rôle du domestique. Bon, bref.
Mais il faut un numéro de clown, de duettiste.
Tu tombes dans le conformisme à l'envers.
Excuse-moi. C'est un numéro qui tombe à l'eau.
Faites confiance à Charlotte, à Fabienne et à l'animateur de cette émission. Allez voir l'hôtel du libre-échange.
Ça n'est pas partial, ça.
Non, mais c'est vrai.
On boira des rires ensemble.
Nous, on aime encore la vie et on croit encore à l'amour. C'est à la Comédie-Française, c'est mis en scène par Isabelle Nanty. Une vie au vieux Colombier, une pièce spécialement écrite et mise en scène par Pascal Rambert pour les acteurs du français et un enfant. Une pièce, cher Vincent, qui se déroule dans un studio de radio. Mmh. On a nos habitudes.
Tout blanc.
Voilà, où un journaliste et critique d'art, c'est Hervé Pierre, interroge un artiste figuratif de renommée mondiale qui a peint des visages et des sexes et qui peint désormais des fleurs et des arbres. Et c'est Denis Podalydès. Les personnes que l'interviewé évoque non seulement s'incarnent, mais aussi dialoguent. Avec lui, il y a la mère qui est morte, c'est Cécile Brune. Il y a le frère qu'il déteste, c'est Alexandre Pavlov. Il y a son premier amour. Et principal modèle, c'est Jennifer Decker. Et puis, il y a encore un diable, comme chez Ramu. Et là, c'est Pierre-Louis Calixte, et puis l'enfant qu'il a été. Ça se joue, je le précise, au Vieux Colombier jusqu'au 2 juillet. Tu as retrouvé, Vincent, l'atmosphère de la radio?
C'est autre chose.
Oui, c'est autre chose.
Mais en tout cas, dans la volonté.
C'était pour te lancer, quoi.
Oui, oui, c'était malin et bien tenté. Chef. Non, mais je suis complètement emballé, moi, par ce spectacle. Je suis complètement conquis. Ah oui, oui, je suis. J'adule une vie de Pascal Rambert et par Pascal Rambert, vraiment.
Déjà, c'est gonflé de dire une vie, c'est quand même un titre qui appartient un peu à Maupassant,
oui.
Non?
Oui, mais oui. C'est un clin d'œil.
En fait, ça très. Et puis, c'est vraiment. Est-ce que ton stagiaire t'accompagnait?
Non, j'étais seul.
C'est pour ça que t'as aimé.
Je ne me sers pas de lui comme prétexte. Non, je trouve ça formidable parce que tout est juste. On a rarement aussi bien parlé du côté ogre d'un artiste. C'est quelqu'un qui dévore. C'est quelqu'un qui est capable de traduire la vie sur une toile. Et qui est incapable de la vivre, cette vie au milieu des autres.
Ah, c'est nouveau.
Sans
c'est
arrêt,
c'est un
parallèle.
Cliché, ça.
Oui, c'est mais nouveau. Ça c'est rarement montré aussi bien avec cet intervieweur qui essaie de le faire parler de lui, parce qu'on a tous envie finalement de savoir la petite histoire de celui qu'on a en face de nous. Et cette personne-là,
dans
l'artiste,
la mouette, non, pas.
A envie de parler de son œuvre et des œuvres récentes qu'il vient de faire. Donc il y a ce combat-là entre deux. Podalydès est éblouissant. Je trouve qu'il a une présence dans ce rôle. Il réussit à être antipathique au moment où l'artiste est antipathique. Et puis quand finalement l'intervieweur réussit à le faire parler de lui, les personnages sont convoqués, les fantômes, ils arrivent là et il se passe quelque chose entre eux. Et je trouve que c'est une des premières fois où Rambert arrête un peu avec les monologues systématiques et rentre dans une confrontation entre le personnage principal et les personnages de sa vie, les personnes de la vie. C'est un homme qui n'est pas capable d'aimer et je trouve ça extrêmement bien dit avec un sens de la langue intéressant. C'est quelqu'un qui nomme Pascal Rambert. Et je pense à cette scène où et l'intervieweur et lui se mettent à dire ce qu'il y a précisément comme fleur dans un jardin.
Ah, oui.
Ça devient
c'est
presque un visionnaire.
Ouais.
Et la manière de décrire aussi une œuvre, un tableau et comment on peint. C'est une pièce sur l'inspiration. Inspiration aussi, il est très inspiré Pascal Rambert.
Enfin, dans le guide close des noms de
moi,
fleurs
ça m'a donné
et d'arbres,
envie d'aimer, ça m'a donné envie de sortir cueillir des fleurs dans un jardin,
non,
d'être
non.
capable de toutes les nommer. Mais, ça non, m'a donné
mais,
envie.
Mais, tu connais rien au jardin.
Achète-toi un dictionnaire,
de vivre
un dictionnaire
à fond,
et tu verras, tu trouveras des mots.
Non. Et donc, pour moi, il a totalement réussi son pari et sa pièce.
Ouais. Fabienne.
Ah, pour moi, il a totalement raté son spectacle, qui est alors là d'un ennui noir, sans rythme. Moi, ce que j'aimais bien, par exemple, il se répète toujours depuis Clôture de l'amour, où il avait trouvé une forme qui était ces deux monologues dont vous parliez.
Ça a changé depuis avec cette pièce.
Oui, mais il n'y arrive pas. Et il recycle. Il recycle quand même des bouts de choses de temps en temps, comme cette litanie avec les fleurs, par exemple. Mais il n'a pas l'énergie du verbe. Et donc, moi, ce que j'ai trouvé dans cette histoire, somme toute banale, d'un artiste qui se fait interviewer et dont on découvre la face cachée, obscure, qui dit des énormités du genre on peint toujours le sexe de sa mère, sûrement ça fait ce pari.
Je pense qu'il y a plus d'humour que ce que tu crois. Tu l'as pris
c'est
peut-être trop au premier degré.
C'est dit avec
un
sérieux.
Il y a des clins d'œil. Il y a
des
clins d'œil avec les clichés.
Ça, c'est pas dit au second degré. Hein.
Ça, c'est pas dit au second degré du tout.
Il y a des moments où il parle de sexe et de sexualité avec de l'humour.
La femme aimée, les clichés avec la mère, dévorante, évidemment, vampire et dévastatrice et castratrice.
Castratrice, oui.
Donc, non,
il en existe.
Tout ça pour rien, pour qu'il ait la nostalgie de l'amour, comme vous, à la fin du spectacle. Moi, je trouve qu'au niveau de la langue et de l'énergie, on voit d'ailleurs que les acteurs ne sont pas portés par ça, à part Podalydès.
Ce qui est étrange, parce qu'il dit vraiment qu'il a écrit cette pièce pour eux, pour ces acteurs du français.
Hein. À part Podalydès, qui est génial, comme d'habitude, Hervé Pierre, un peu aussi, il incarne
pourquoi, il
quand même.
Génial.
Même quand il se tait, il est lumineux. Bon. Moi, je l'ai regardé se taire. Comme je m'ennuyais beaucoup, j'ai regardé Podalydès tout le temps. Et quand il ne parle pas, quand on ne lui parle pas, il arrive à avoir une présence en scène. Il irradie, il vit, il est sur le plateau. C'est un phénomène.
Ah pour oui, moi, c'est pas un phénomène. Qu'il rayonnait particulièrement.
Et en plus, alors là, maintenant que Rambert fait lui-même la scénographie, avant, il travaillait avec Daniel Janetot, donc c'était
elle
beau.
Elle est sobre, là. Hein.
C'est moche.
C'est moche,
très
c'est
moche.
Sobre.
Ce
non,
plateau,
les lumières sont
ce
belles. C'est la seule chose jolie, c'est les lumières.
Oui, parce qu'il y a un petit effet à la fin.
Bah oui, bah donc, c'est pas moche.
Il y a un tout petit effet au plafond.
Ah non, mais les lumières
studio de radio.
Mais le plateau est mal occupé. Le plateau est mal occupé. La mise en scène, la direction d'acteur n'est pas bonne. Non, je trouve vraiment qu'il a raté son coup. Et en plus, il se répète maintenant.
Jacques,
à part sur les lumières, je suis entièrement d'accord avec Fabienne. J'avais beaucoup aimé Clôture de l'amour. Je trouvais que c'était un texte très intéressant et c'était très bien monté, très bien joué. Mais là, on a l'impression que c'est pas des, enfin, c'est cette patte des mots, c'est du cloug. Il n'y a pas de. Vous savez, le cloug, le fameux gâteau.
Le début de chou.
Voilà. Ben c'est ça. Il n'y a pas de levure là-dedans. Ça ne vit pas. Et les comédiens ont la bouche pleine de mots, mais il n'y a pas de sens qui s'en dégage. On s'ennuie affreusement. Et c'est effectivement, ce ne sont que des clichés sur les artistes. Effectivement, la mère castratrice, la difficulté de l'artiste.
Et la haine des deux frères.
Enfin, je sais pas, vous parliez de choses nouvelles, mais enfin, rappelez-vous le rôle de Trigorine dans La Mouette. Tout ce qui est dit sur l'impossibilité de vivre est dit par Trigorine, et oui, ça a été dit il y a longtemps.
On peut continuer à vivre, mieux, à écrire et à penser des choses semblables et les dire autrement.
C'est
le théâtre continue,
Jacques.
Et
tout le monde s'ennuyait dans la salle.
Sur la radio et les interviews.
Moi, je vais soutenir Vincent, parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir.
Vous êtes vraiment
ce spectacle.
Ah, oui, les petits,
on est un petit couple.
C'est ma nouvelle stagiaire.
On ne s'est pas concerté. Évidemment, effectivement, cette question de la porosité entre la vie personnelle et la vie d'un artiste a été maintes fois déjà rabattue. Mais là, moi, j'étais assez impressionnée par les différents registres de langue, justement, qu'utilise Pascal Rambert. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les fantômes de la vie de cet artiste arrivent et s'incarnent en scène, on découvre les zones d'ombre, c'est-à-dire qu'il est assez sympathique au début de l'interview, mais
non,
plus
dès
ça
le
avance,
début, dès le début,
il devient
au
de plus en plus
c'est
antipathique. Et je trouve que moi, j'ai été assez saisie et
dès
surprise par ces registres différents. C'est-à-dire qu'effectivement, la mère castratrice dont vous parliez est sur un registre un peu de confession émouvante. Après, il y a le règlement de compte amoureux par le premier amour, qui évidemment, là, on pense à la clôture de l'amour, son grand succès. La diatribe vengeresse au vitriol du frère mal aimé, maltraité, humilié, et jusqu'à une certaine nostalgie. Je trouve à la fin, avec l'apparition du diable qui est son meilleur ami, sur les
et
jeunes hommes qu'ils ont été et ce qu'ils sont devenus. Et moi, contrairement à vous, je trouve les comédiens absolument remarquables. Denis Podalydès est une justesse incroyable et extrêmement présent, même
incroyable.
Quand il l'écoute. Parce que finalement, il parle beaucoup moins que les autres. Il est souvent en position d'écoute. Alexandre Pavlov, qui est le frère, m'a assez saisi. Non, vraiment, vous faites la fine bouche, là,
sur un objet
théâtral qui est assez conséquent, quand même.
Eh bien, c'est une vie, c'est au Vieux Colombier, et c'est jusqu'au 2 juillet. Allez, on va aller un peu plus vite pour les spectacles qui restent. Il y a Ma Folotari, du prolifique Pierre Note, un spectacle qu'on avait vu à Avignon l'été dernier, d'ailleurs dont on avait dit grand bien, au masque
absolument.
Et la plume, et qui est au Lucernaire jusqu'au 24 juin. Moi, je ne l'ai pas revu depuis Avignon, c'est à peu près la même, je crois, il n'y a pas de changement.
C'est exactement la même chose, oui.
Le monologue d'un homme transparent, insignifiant, timide, qui me fait penser à un personnage à la Sempé, et c'est Brice Hilleret, dont la particularité physiologique c'est de voir ses fesses tripler, quadrupler de volume, jusqu'à devenir une montgolfière, ce qui l'oblige, il faut dire, le pauvre à quitter la ville, où il est regardé comme une bête de foire, et il va se réfugier auprès, ce qui est logique, du notary, au milieu de l'océan. J'ai envie de dire que c'est une fantaisie assez triste. J'ai pensé à l'époque, quand je l'avais vu, à évidemment Autruisme de Marie Dariussec, où cette femme se métamorphosait en truie. Spectacle tout simple, avec ce comédien assez épatant qui est Brice Hilleret. Est-ce que vous conseillez, c'est jusqu'au 24 juin, aux gens d'y aller, Jacques?
Oui, je le conseille absolument, effectivement. Brice Hilleret, qui a reçu un prix d'ailleurs cette année.
Ça ne veut rien dire.
Non, mais ça veut dire qu'on a été...
Il a reçu un Molière, non, pas un Molière.
Non, pas un Molière, le prix Jean-Jacques Gauthier.
Prix
Jean-Jacques Gauthier.
Ah oui, ça vous change.
2017. Mais ça veut dire quand même que c'était un prix de découverte. Et c'était notre ami Armel Hélio qui lui avait décerné. Et je trouve qu'il le mérite amplement. Ça montre que ce comédien est en train de se faire remarquer, et pour de bonnes raisons. Le texte est très remarquablement écrit. Ce qui est assez curieux, c'est cette espèce d'obsession des fesses chez notre ami Pierre Note, puisque si vous vous souvenez, une de ses dernières pièces, c'était l'histoire d'une femme qui s'était fait claquer sur les fesses par un cycliste en passant, et que ça démolit complètement. Et là, à nouveau, dans cette pièce aussi,
Le traitement est différent.
C'est aussi
quand même,
les fraises, comme dans la chanson des frères.
J'aimerais vous y voir si un cycliste vous...
vous claquez la fraise.
Ah oui, ça m'est arrivé souvent. Enfin,
ah bon oui. Mais pour le plaisir.
Mais enfin, bon, il y a quelque chose. Vous parlez de Sempé. Moi, je pense pas mal à Marcel Aimé. Et il y a dans ces oui. espèces de transformations.
C'est passé, façon de passer au fantastique, enfin au presque fantastique, voilà. À partir du réalisme.
Mais avec quelque chose d'un peu plus pervers, d'un peu plus.
Oui.
mais c'est formidable.
Parce que tout est très métaphorique, il faut le dire, hein, dans cette pièce.
Oui, d'ailleurs, il ne s'embarrasse pas de costumes. Il n'y a pas d'accessoires, il n'y a pas des grosses fesses. Tout est suggéré. C'est ce qui est bien dans son texte, c'est qu'il nous invite vraiment à partir en voyage avec lui et d'imaginer ce qui peut arriver à ce personnage irréel, mais qui vit un peu comme tout le monde, qui se pose des questions de sa place dans la société. C'est un beau voyage sur qu'est-ce que c'est qu'être parmi les autres, bien ou pas bien. Et c'est fait avec beaucoup de délicatesse à la fois de la part de Pierre Note et de l'acteur Brice Hilleray.
Fabienne ?
Moi, je trouve que Pierre Note, que j'aime beaucoup, écrit trop quand même. Il a un côté graphomane.
Il y a beaucoup, beaucoup de pièces et de spectacles, parce qu'il fait beaucoup de choses
voilà,
différentes.
Voilà, donc là, c'est délicieux, comme souvent, c'est plein de fantaisie, un absurde teinté de tragique, avec toujours, vous parliez des fesses, mais il y a toujours la tentation du suicide aussi, hein, qui revient en permanence, dont il se sauve par un goût du burlesque, une poésie, une innocence, un émerveillement d'enfant, toujours, vous. Il y a l'otarie, il y a l'homme tronc qui le sauve, mais finalement, on ne sait pas bien où ça va à la fin. Donc, c'est bien, c'est un conte charmant, joli, qu'on peut
charmant, écouter. Charmant, non. C'est un conte de fesses, mais ce n'est pas un conte de fées.
il retrouve son amour fou, de manière métaphorique aussi, à la fin.
C'est cocasse.
Il ne faut pas
mais
raconter la
bon,
fin. Hein.
Bon, il faut qu'il écrive peut-être moins.
Mais Charlotte
Jérôme, vous parliez de Sempé ou Jacques de Marcel Aimé. Ben, moi, je rajouterais Roland Topor. Parce que c'est cette ambiance comme ça, un peu surréaliste, m'y fait beaucoup penser. Je trouve le spectacle merveilleux. On y croit. Moi, j'y croyais à cette fable animalière un peu surréaliste. C'est léger, c'est cocasse. Il n'y a aucune méchanceté, il n'y a aucune ironie.
Tout ça raconte quoi ?
Ben, il y a une sorte de folie douce comme ça que je trouve délicieuse. Et effectivement, Brice Hilleray, il est merveilleux. Il passe avec une fluidité incroyable d'un personnage à l'autre, puisqu'il incarne différents personnages. C'est vraiment un acteur à découvrir, un très joli moment à passer.
Ma folle otarie, Pierre Note, et c'est au Lucernaire, Lucrèce Borgia, le drame fameux, énorme, là pour le coup, de Victor Hugo, qui est mis en scène au Théâtre 14 par Henri et Frédéric Lazzarini, où on voit la monstrueuse, alors là pour le coup vénéneuse, Lucrèce Borgia, aux mains pleines de sang, haïe de toute l'Italie du XVIe siècle, s'est prendre lors du carnaval de Venise de Gennaro, dont elle ignore qu'il est l'enfant de son union incestueuse avec son frère. Alors, il y a beaucoup de monde, il y a Frédéric Lazzarini, je le disais, Emmanuel de Chartres, Fabrice Josseau, Didier Le Sourd, Hugo Givor, Louis Ferrand, Clément Héroguet, Sandra Aymon, Adrien Vergne et Kelvin Ledoz. Je crois que Charlotte ne l'a pas vu. Vincent ?
C'est un petit spectacle.
Grosse distribution, petit spectacle.
Oui.
En nombre, je veux dire.
Ben là non plus, je ne trouve pas qu'il y ait un point de vue passionnant ou qu'il y ait un point de vue tout court sur la pièce. Lucrèce Borgia, je trouve la distribution extrêmement inégale. Notamment chez les jeunes qui, voulant exister sur scène, hurlent le texte.
C'est pas de leur faute, c'est le metteur en scène.
Ben oui, justement, il y a un problème de direction d'acteur qui, moi, m'a vraiment posé beaucoup de problèmes. Je trouve que la comédienne Frédéric Lazzarini est bien, mais je ne crois pas au trouble entre elle et son fils, et ça m'a beaucoup manqué. Donc, spectacle pas convaincant pour moi.
Jacques ?
Ben, c'est un spectacle que je trouve, c'est triste à dire, mais c'est d'un niveau amateur et même de mauvais amateur. La direction d'acteur est en dessous de tout. Les jeunes comédiens dont Vincent parle, c'est pas de leur faute. On les fait hurler du début à la fin. Mais d'ailleurs, je pense que quelques jours après la première, ils ont dû avoir des extinctions de voix parce que c'est épouvantable. Or, il faut jamais crier au théâtre. Il faut enfler la voix, disait une vieille comédienne, Musée d'Albret. Mais c'est vrai. Et quant à Lucrèce, qui est la fille du metteur en scène, bah, écoutez, je sais pas. Quand on pense que cette pièce formidable a été montée par Vitesse autrefois,
oui, bon, bah, qui demande, il faut le dire, des gros moyens. C'est un drame qui a besoin aussi de
ça demande des grands comédiens, c'est tout.
Et pas on
des
gros moyens. On la demande beaucoup depuis 2-3 ans, on a vu énormément de mises en scène.
Oui, oui, français, bien sûr.
Notamment alors, bon, en français,
la mise en scène du français, encore avec Éric Ruff, qui était tellement extraordinaire dans le rôle du duc de Ferrare.
Guillaume Gallienne n'était pas terrible, Lucrèce Borgia.
Mais Éric Ruff était formidable. Mais de toute façon, Guillaume Gallienne était éblouissant à côté de Frédéric Lazzarini. Je suis désolé, mais là, c'est en dessous du niveau de la mer.
Bon, Fabienne.
Moi, je suis plus indulgent. Je reconnais que c'est un petit spectacle qui ne fait pas dans la dentelle ni dans la litote. Mais moi, j'adore la pièce. Pièce, Lucrèce Borgia. Et donc, aller l'entendre, aller l'écouter, même jouer
mais
de
non,
manière un peu
mieux la lire
amateur.
Plutôt que de l'entendre massacrer.
Oui, mais quand on l'a lu, ça dure très longtemps. Là, c'est ramassé, ça dure 1h30. Et l'essentiel y est. Moi, pourquoi les monter si souvent? Parce que cette pièce nous raconte que les monstres, il faut les aimer, parce que les monstres, ils ont une face cachée. Oh. Ils ne sont pas... moi,
c'est un merveilleux mélo, puis c'est tout. C'est un grand mélo.
Non, dans notre période d'aujourd'hui, où le mal et la haine est partout. Je l'adore. Lucrèce
c'est
Borgia,
très inquiétant.
Elle me fait peur, là, quand elle dit ça.
Mais c'est
je n'accepterai plus jamais une tasse de thé.
Mais c'est un personnage fantastique qui est certes une tueuse, une massacreuse, mais elle se sacrifie pour son fils. Elle redécouvre la tendresse et l'amour via son fils.
Et Hitler aimait beaucoup son chien. Hein.
Enfin, toute sa difformité. Mais bien sûr, on peut l'admirer. Elle est sublime. Ce qu'il y a de formidable chez Hugo, c'est justement ce mélange du sublime et du grotesque qu'elle incarne.
Là, il y a que le grotesque par la faute de la mise en scène.
Non, et je trouve que Frédéric Lazzarini, qui peut être vulgaire, ordinaire, moche, elle arrive à incarner cette femme monstre.
Bon, c'est Lucrèce Borgia, c'est au Théâtre 14. Il y a aussi Le froid augmente avec la clarté. Et l'adaptation au Théâtre de la Colline par Claude Duparfait des deux premiers volets autobiographiques de Thomas Bernhardt, L'origine et la cave, texte où il raconte son enfance à Salzbourg dans un collège dirigé par un officier nazi et où il dénonce son pays, l'Autriche. Ça sera pas la première fois. Le national-socialisme et le catholicisme, deux maladies, écrit-il, contagieuses, maladies mentales. C'est ce qu'il dit en conclusion. C'est avec Thierry Bosque, Claude Duparfait, Pauline Lorillard, Annie Mercier et Florent Pochet. Et c'est, attention, jusqu'au 18 juin. Donc très peu de temps, Jacques.
Oh, ne vous pressez pas, lisez plutôt les livres, là encore, parce que ce ne sont pas des textes de théâtre. Et je trouve que la volonté de Claude Duparfait de les adapter au théâtre n'est pas du tout convaincante. Je pense que Thomas Bernhardt a écrit beaucoup de pièces, d'ailleurs inégales, toutes ne sont pas formidables, elles sont parfois très ennuyeuses, parfois très forte, mais là, je ne vois pas pourquoi on va chercher ces deux textes et pourquoi on veut à tout prix en faire un spectacle. Là encore, ça manque de levain, la pâte ne lève pas, c'est très indigeste. Puis Duparfait est très exaspérant comme comédien, là.
Moi, je suis très déçue par le spectacle parce que Duparfait a déjà monté des Thomas Bernhardt, notamment des arbres à abattre, et il était magnifique. Et là, je trouve que c'est froid, que c'est mal découpé, puisque les personnages sont censés représenter Thomas Bernhardt à différents âges de sa vie, à travers même des sexes différents, puisqu'il y a la magnifique Mercier qui
alors
joue.
Alors voilà, Annie Mercier
est géniale. Et très bien. Aussi. Mais il veut trop dire de choses à la fin, parler d'Hitler et parler du catholicisme, faire une référence à la Shoah à la fin du spectacle.
C'est tous les problèmes de Thomas Bernhardt. Hein.
Oui, mais c'est mal amené dans la froideur et je trouve que c'est très mal foutu, vraiment.
Vincent. Oui, c'est dommage. Claude Duparfait est un acteur et un metteur en scène intéressant, avec de beaux projets en général, mais là, il est trop gourmand. Je crois qu'il aime trop Thomas Bernhardt et qu'il s'est dit, allez, je rajoute ça, je rajoute tel texte. En fait, il a pris au moins trois textes de Thomas Bernhardt, des choses qui ne vont pas bien ensemble pour la compréhension et l'émotion. On a quelque chose de très cérébral en face de nous, quelque chose de très sombre. Il prend très, très au sérieux Thomas Bernhardt en étant lui-même en scène avec effectivement un maniérisme qui finit par nous exaspérer un petit peu parce que on est dépassé et débordé par tous ces textes de Thomas Bernhardt, aussi intéressant, tu le disais, littérairement soit-il. Et puis, il y a trop de comédiens. Chacun joue Thomas Bernhardt, mais on finit par les confondre et par ne plus avoir de repères.
Cela dit, quand c'est Annie Mercier qui parle, on l'écoute.
Heureusement qu'elle est là.
Beaucoup plus présente que les autres.
Oui, ils ont de belles présences. Et elle a une présence comique, heureusement. Ça fait un bien fou quand elle entre en scène. Mais c'est insuffisant.
T'en as pensé ton stagiaire?
Le froid augmente avec la clarté. Thomas Bernhardt, et c'est à la Colline. Et on termine avec Box Box au rond-point, la reprise d'un spectacle qui date de 2010 de Mourad Merzouki qui invite le Quatuor Debussy et la compagnie Hip Hop ASN, ça c'est plutôt pour Charlotte, a participé à, je cite, une fête d'interaction musclée entre la danse, la musique et la boxe. C'est pas très original, mais c'est ce qu'il essaye de faire. Et il convoque aussi bien Mohamed Ali que Laurel et Hardy, Schubert, Ravel, Philippe Glass, la boxe d'Imarzouki. C'est de la danse, ça Charlotte en revanche, vous l'avez vu celui-là.
Oui, absolument, hier soir. C'est vrai que Mourad Merzouki est parti du principe que quand un boxeur boxe, il danse. Et il a eu l'intuition aussi que la musique classique pouvait tout à fait se marier avec le hip-hop. Et en ça, je trouve que ça marche, c'est-à-dire qu'il arrive à allier des univers a priori assez différents, avec beaucoup de douceur, beaucoup de fluidité. Le quatuor de Bussy joue donc en direct sur le plateau, et alors là, pour le coup, moi, ça a été mais un régal de musique. C'est-à-dire qu'on passe de Schubert à Verdi, en passant par Debussy.
C'est plus Schubert que Stravinsky.
Oui, non, et Philippe Glass. C'est-à-dire qu'il y a un passage sur Philippe Glass absolument merveilleux. J'ai tout de même, moi, un bémol, c'est que je trouve que la compagnie là, des danseurs n'est pas tout à fait à la hauteur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment 3-4 danseurs qui émergent, qui ont beaucoup de charisme, une technique assez irréprochable. Le reste de la troupe est beaucoup plus faible, à mon sens. Mais heureusement, quand même, le spectacle se termine par un solo absolument magnifique sur un quatuor de Schubert, je crois, qui là m'a beaucoup ému et m'a un petit peu rattrapé sur le coup de mou.
C'est plus les clichés sûrement qui m'ont gêné sur le, voilà, le sport et la danse que je trouve être
un peu déjà exploré. Mais il y a
Vincent,
des jolis moments.
Moi, je vais reprendre la question que posait Fabienne à propos du spectacle de notes. Qu'est-ce que ça raconte? Bah, je suis resté complètement à la porte. Qu'est-ce qu'il veut dire?
C'est l'imbrication des deux.
Oui, mais une fois qu'on a posé ça sur le papier, il faut le traduire sur scène.
C'est pas narratif, on est dans du mouvement.
Non, mais il se passe rien, il n'y a pas de rencontre entre les musiciens et les boxeurs.
Le jeu des contraires.
On parle même pas de la boxe en soi, on a un certain nombre de numéros dans un très vilain décor. C'était un très vilain fauteuil en métal, là, sont hideux, les costumes des musiciens, les pauvres, c'est une torture de porter des costumes pareils. Alors, de temps en temps, on a un danseur exceptionnel. Moi, j'ai noté Teddy Verardo, qui est entre la danse classique et le hip-hop, c'est quelqu'un qui fait un travail merveilleux, mais la volonté burlesque est totalement ratée, c'est pas drôle. Tu citais pas mal de grands noms du burlesque.
C'est ce qu'il veut convoquer. Hein.
Il essaie de les convoquer, mais il n'y parvient pas, effectivement, peut-être parce que ça pêche un peu du côté de la distribution. Pour moi, c'est un spectacle raté, hélas.
Fabienne ?
Pour moi, c'est un spectacle qui a mal vieilli, parce que les spectacles vivants, eh ben, ils vivent à un certain moment.
Tu l'as vu au début ?
C'était en 2010. Oui. Non, mais je trouve qu'il est daté, un peu démodé, parce qu'en 2010, quand il a été créé à la Biennale de Lyon, c'était sûrement formidable de faire cohabiter de la danse et de la boxe, de la musique classique et du hip-hop.
Ça se faisait déjà beaucoup,
pas le Moyen-Âge,
Fabienne,
2010,
depuis les années 90.
Oui, mais ça se faisait moins qu'aujourd'hui. Ouf. Donc là, maintenant, qu'est-ce que ça nous apporte de plus? Je trouve que le langage même de Merzouki est un peu.
Jacques.
Moi, je trouve qu'il y a une absence d'idées absolument incroyable. Et c'est, moi, j'ai vu.
Enfin, la salle était en délire.
J'ai vu
quand même,
pendant
Jacques,
55,
allée,
j'ai
ça,
vu
ça
55 minutes d'expression corporelle, beaucoup plus que de danse.
Il y a un solo éblouissant,
et je rejoins tout à fait Charlotte là-dessus. Alors là où tout à coup, il y a eu quelqu'un qui s'est servi de son corps pour dégager de l'émotion. Mais le reste du temps, j'ai vu des tableaux sur la boxe qui étaient d'une banalité à pleurer. Et je trouve que ça n'a aucun intérêt. Alors, effectivement, il y a un système d'applaudissements, ils viennent les uns après les autres, font des petits numéros et c'est assez long ces saluts, mais ça réussit à galvaniser le public,
les saluts sont réussis,
et à lui faire croire qu'il a passé un bon moment, mais c'est pas vrai.
Box, c'est au rond-point jusqu'au 18 juin. Avant les conseils, je voulais vous poser une question collective sur les Molières qui ont été décernées c'était lundi 29 mai, et où, chère Fabienne, Alexis Michali, son chouchou, a été 5 fois récompensé pour Edmond. Il y a eu aussi d'ailleurs beaucoup de récompenses pour les Danais, puisque les Danais ont remporté 3 Molières. Est-ce que cette distribution vous a paru à la fois juste, légitime? Je parle des trophées, hein, bien sûr. Ce soir-là, Fabienne?
Non, parce que, moi, Michalik, c'est pas ma tasse de thé, mais je reconnais que tout le monde l'aime, y compris chez moi, mes deux fils l'adorent, donc je suis la vieille maman méchante qui n'aime pas Michalik. Donc, il a réussi à drainer un public, il a un art de raconter les choses, mais c'est quand même à partir d'Edmond Rostand. Les Danais, qui a été très, très salué aussi, c'est quand même aussi à partir d'un film, donc où, moi, ce que je regrette dans ces Molières, c'est où est le répertoire d'aujourd'hui, quoi. Où sont les auteurs d'aujourd'hui?
Il y a eu Philippe Cobert qui a eu...
C'est vrai.
Auteur et bon, qui a eu un prix, je ne sais plus lequel, enfin un Molière.
Bah, le Molière du meilleur acteur, ah bah qu'il voilà. avait déjà eu d'ailleurs il y a 2 ans à sa première reprise.
Et puis il y a deux spectacles. Il le mériterait tous les ans. Ben, je trouve que le système n'est pas bon. C'est-à-dire que, contrairement à Fabienne, j'aime beaucoup Michalik et j'ai beaucoup aimé Edmond. Mais en même temps, quand je vois 5 Molières lui tomber dessus, il était même un peu gêné. Il se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. La meilleure mise en scène, le meilleur auteur et le meilleur spectacle de théâtre privé. C'est un peu trop, plus deux comédiens salués. Non, je trouve que c'est un peu trop. Et il devrait y avoir un système qui fait que quand on décroche la plus haute distinction, ben les autres devraient aller à d'autres spectacles. Là ça, c'était un peu exagéré.
Peut-être pour dire tout petit peu de Vincent. Bien, il y a quand même, on parlait de l'absence de théâtre contemporain, il y a quand même 2 spectacles d'aujourd'hui. Il y a Réparer les vivants, Maëlys de Kerangal, par Emmanuel Noblet, qui est un bon spectacle, qui sera repris à la Porte Saint-Martin.
C'est un roman adapté, c'est pas l'écriture théâtrale.
Oui, mais il en fait une belle adaptation pour le théâtre et pour la scène. Il se passe vraiment quelque chose avec lui, Noblet. Et il y a Bigre, ce spectacle. Qu'on avait beaucoup aimé aussi, n'est pas très connu du grand public, mais qui continue de vivre d'ailleurs sa vie depuis pas mal de mois maintenant. Et ça, c'est une bonne chose.
Ouais.
Très rapidement, Jacques disait que le système devrait être changé. Moi, il y a quelque chose qui me chiffonne un peu, c'est que souvent se retrouvent nommés ou nominés, je ne sais pas comment il convient de dire, des spectacles qui tournent déjà depuis 2 ou 3 ans. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a ce spectacle-là. Et donc, je suis quand même un peu gênée parfois de voir des spectacles récompensés qui ont été créé il y a au moins 2, voire 3, voire plus de saisons précédentes.
Tu penses à quoi ?
Sur cette année, Bigre, par exemple, est une création d'il y a 2 ans. D'une certaine manière, Philippe Cobert, mon Dieu vivant, c'est pas une création de cette année, ça me gêne un peu. Et effectivement, cette répartition qui s'est concentrée sur Edmond et les Danais fait oublier qu'on a eu une année, je trouve, extrêmement riche, quand même, théâtrale. Et quand on voit rien que les nommés en meilleur metteur en scène du privé, qui avait Julien Gosselin, Jean Bellorini, même Ivo Vanov, il y avait des très belles choses qui sont passées un peu à l'as, malheureusement.
Et rappelons aussi quand même James Thierry qui a remporté le Molière du meilleur metteur en scène.
Face à ceux que je viens de citer, et pour son spectacle le plus faible,
raison.
C'est un peu dommage.
Allez, rapidement, un conseil pour finir cette émission. On commence avec Charlotte.
Un conseil, c'est la saison des festivals qui va démarrer. Avant qu'on parle d'Avignon, il y a les Nuits de Fourvière qui démarrent à Lyon, là,
très
ces jours-ci.
Bon festival.
Et il y a une très, très belle programmation. Je voudrais juste attirer votre attention sur 2 choses. La première, c'est la création des Chiens de Navarre jusque dans vos bras, qui vont questionner l'identité française. Alors, je n'ai pas encore vu, mais quand on connaît leur travail sur cette question, ça met vraiment en appétit. Ça sera du 7 au 11 juin. Et puis surtout, 2 spectacles de Lorraine de Sagazan, jeune metteur en scène très percutante, qui propose Démons et Maisons de poupées dans la même soirée. Elle est à suivre.
Conseil de Vincent.
Moi, je propose un livre qui est sorti il y a quelques mois, mais je me permets de vous en parler quand même, parce qu'on parlait de lui tout à l'heure de façon un peu négative, et j'en faisais partie, des critiques déçues. C'est Claude Duparfait. Claude Duparfait a fait un spectacle sur sa passion de Ravel, Maurice Ravel, qui s'appelle La fonction Ravel, et le bouquin est sorti. Et il est très, très, très passionnant à lire. Il raconte de manière très autobiographique, peut-être parce que là, on retrouve aussi sa passion de Thomas Bernhardt, combien ça a été difficile pour lui de grandir à Laon, dans l'Aisne, en Picardie. Il a été orienté quand il était petit garçon. Il a cru qu'il allait mourir un jour tellement il était malheureux. Et puis un jour, dans le transistor de son père, il écoute du Ravel et il va passer sa vie à écouter Ravel et à grandir, à s'intéresser à la littérature, à plein de choses, grâce à ce choc dans ses oreilles, un jour à Laon.
Je vous dépêche, on se dépêche
la
un peu.
La fonction Ravel,
La reprise au Théâtre National de la Colline jusqu'au 18 juin du spectacle qui avait été créé à Avignon, qui était formidable, de Jean Karski, Mon nom est fiction, d'après le roman de Yannick Enel, qui était une mise en scène de Arthur Nosiciel sur ce Polonais qui avait été dans les années, ce catholique polonais Karski, qui avait été dire aux Anglais et aux Américains ce qui était en train de se passer, qui savait ce que c'était que la Shoah, et personne ne l'a écouté. Donc ça montre la solitude de ces témoins-là. Et puis, très vite fait, l'exposition que met en scène...
L'émission se termine. Il faut aller vite. Le conseil de Jacques.
Conseil, jusqu'au 30 juin au Théâtre de la Bastille, Art de Yasmina Reza, joué par une troupe de comédiens flamands, belges et néerlandais. Je suis pas absolument convaincu par la mise en scène, ni même par leur façon de jouer, mais la pièce résiste et le spectacle est très drôle et ça prouve que cette pièce est vraiment un chef-d'œuvre et même un classique.
Tous ces conseils,
s'il vous plaît,
tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci Charlotte Lipinska, Fabienne Pascoe, Jacques Nerson, Vincent Josse pour cette émission qui était comme chaque semaine vient de présenter par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam à la technique au Sacha Guitry ce soir, Pascal Bénard, Fabien Capel et Dimitris Capolan. La réalisation était de Didier Lagarde et vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, c'est le jeudi 15 juin. Je vous attends à 20h au studio Charles Trenet de la Maison de la Radio pour deux émissions, l'une consacrée au cinéma, l'autre à la littérature. La semaine prochaine, pas d'émission pour cause de soirée électorale. On se retrouve le dimanche 25 juin pour parler de cinéma sur France Inter, évidemment.